Nee.
Willette. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Un podcast qui a été enregistré, pré-enregistré, je pense, hier ou avant-hier, et qui est diffusé présentement sur la chaîne YouTube de Joe Rogan Experience. C'est Pierre Poilievre qui s'est pointé au podcast de Joe Rogan, le podcast le plus écouté sur la planète. Mm-hmm. Et je le répète, il y a des chroniqueurs qu'on considère comme crédibles qui se posent la question présentement au Québec. Pourquoi est-il allé là?
Ben parce qu'il y a de l'écoute.
C'est ça. Je l'ai donné en réponse dans l'intro.
C'est parce qu'on est pas en... Les gens reprochent beaucoup parce qu'on n'est plus en campagne électorale, puis il fallait le faire comme l'an passé.
Ouais.
Je comprends. Je saisis stratégiquement.
Il n'y avait pas cette stratégie-là.
Possiblement. Reste que c'est quand même un Américain, Joe Rogan, c'est pas un Canadien. Là. Puis bon, il l'explique en début de podcast. Je vous ai sorti une cote, là, mais cela étant dit, il a quand même le droit d'y aller. Là.
Ben oui.
Puis
on va l'écouter, puis on verra ce qu'il dit. Hey, puis il y a trois heures de podcast. Ouais. Fait que s'il a à se planter, se planter. Là.
Et voilà.
Voilà. Hey, on a un invité en studio. Jason, un peu de budget parce que c'est la journée du budget. Ben, l'après-journée du budget, c'est sorti hier en fin de journée. Bon, le ménage est fait. On a tout fait le tour des figures de style. Là. Donc, la maison est en ordre. Le ménage est fait. C'est propre. C'est responsable. C'est un budget qui va avec l'époque, etc. On va aller voir ce qu'en pense notre invité, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère, en face de moi. Bonjour.
Bonjour.
Puis, la maison est propre.
Si ça, c'est une maison propre à 8,6 milliards de déficit, c'est parce que le balai est cassé. Là. Ça ne fonctionne pas du tout. c'est une baisse du déficit projeté. On était à 9,5 milliards en automne pour l'année qui s'en vient. Mais en réalité, là, 8,6 milliards, on n'a pas fait d'efforts importants en matière de réduction des dépenses. Fait que pour comprendre cette diminution-là dans le déficit projeté, c'est juste très simple. Il y a une augmentation des revenus ménages ont plus consommé. Ce que ça veut dire concrètement, le ministre n'a pas fait les efforts nécessaires pour réduire les dépenses, pour réduire le déficit. Puis ça, mais qu'est-ce que ça va faire? On va augmenter la dette du Québec, puis on va pelleter ça en avant pour les prochaines générations. Ça va augmenter l'intérêt sur la dette, qui est déjà rendu à 10,3 milliards. Par ailleurs, là, c'est plus qu'un portefeuille comme celui de la famille. Bref, ça coûte de plus en plus cher et on est devant une réalité aussi, là, on le voit dans le budget déposé hier, que la santé pèse de plus en plus lourd quand on regarde la croissance.
Ben oui. Et ça ne s'améliorera pas, ça.
Ça ne s'améliorera pas, c'est un excellent point. On parle d'une augmentation de près de 3 milliards pour la santé, environ 900 millions pour l'éducation. Donc, il faut réduire ailleurs parce qu'on n'y arrivera pas. Les Québécois sont déjà taxés.
Ben moi j'ai ma vision. Moi, tant qu'on ne mettra pas la hache sincèrement dans le modèle où on ne va pas revisiter des pans entiers de ce qu'on offre dans le panier de services inépuisable. Là, je veux dire, ça n'a pas de fond, ce panier de services-là. Puis quand je dis services, évidemment, services qui vont avec la qualité qui viennent avec. Là. Je regarde, tu parles du déficit, là, je regarde les lignes. Très confiant, là. Monsieur Girard, lui, nous dit... on part de 9,9 dans l'année en cours, 8,6 l'année prochaine. Là, je parle de déficit. 5,7 milliards l'année d'après, 1,5 l'année d'après et zéro en 2000. Tu sais, je veux dire, s'il faut suivre ce plan-là, celui qui s'en vient a de la job en tabarnouche, là.
Il sera
pas populaire, lui-là. Là.
Non, il y a beaucoup, beaucoup de jobs. Il faut quand même le dire, là. Le ministre Girard, l'année dernière, en mars 2025, avait planifié un retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Tout ça s'inscrit dans le cadre de la loi sur le retour à l'équilibre budgétaire.
En fait, il n'y a pas le choix d'arriver à ce chiffre-là.
Il n'y a pas le choix. Le problème, c'est qu'en arrivant à ce chiffre-là, quand on creuse un peu, il y avait 3,2, 3,3 milliards de dollars où il n'y avait aucune idée.
Ouais.
Pas confiance.
Il reste
là.
Un 2 milliards par année flottant.
Il reste un 2 milliards flottant, mais il semble qu'après un an, après une décote du SNP, où, il faut quand même le rappeler, le problème de crédibilité et de rapidité de retour à l'équilibre budgétaire faisait partie des raisons de la décote, on n'apprend pas. On revient avec un écart à résorber. Autrement dit, 2 milliards, on n'a aucune idée. C'est problématique, mais ça s'inscrit quand même dans la dynamique d'Éric Girard au cours des dernières
c'est
années.
C'est Moody's hein, qui a décoté le Québec.
Standard and Poor's.
Est-ce que Moody's va suivre?
On va voir. Moody's vient de décoter aujourd'hui la Colombie-Britannique avec la mauvaise gestion budgétaire. On va voir. Le problème, c'est qu'il y a eu plus...
C'est un gros inconnu dans la pièce. Là.
C'est un gros inconnu parce qu'encore une fois, c'est quoi les éléments dans la décote d'avril qui n'ont pas changé? Retour à l'équilibre budgétaire, manque de crédibilité.
On peut
faire le tour des médias puis expliquer en tant que ministre des Finances, c'est ce que M. Girard fait. Ah non, mais mon plan est crédible. peux le répéter 100 fois. Ouais. Je peux dire que je suis une licorne. Je peux le dire, je suis pas une licorne. Ouais, ouais. Ça change absolument rien.
Mais il y aura des gens pour dire oui, c'est bon, on te respecte, t'es une licorne.
C'est parce qu'on est en 2026.
Mais la réalité, c'est que tu l'es pas. Là.
Exactement. Et en parallèle, il y avait également les dépenses en capital. T'sais, on a dit, ben là, c'est parce qu'il y a tellement d'augmentation de dépenses en capital, peux-tu faire attention? Ça continue, là. Ça a encore augmenté. Et malgré ça, on a encore des problèmes au niveau des infrastructures. Donc, on est quand même dans une dynamique très difficile en matière de gestion des finances publiques où on a le budget d'opération, dépenses, revenus, déficits. Ça, c'est pas rose, là. Après 9 points... En fait, c'est 10 milliards. Je sais pas pourquoi les politiciens puis les médias
9,9.
arrondissent ça à 9,9 quand le vrai chiffre, c'est 995 millions de dollars de déficit.
On est sur le bord de l'arrondi. On est supposé arrondir l'autre bord.
C'est ça. On est supposé dire 10, mais là, c'est on veut pas, on dit 9. En tout cas, ça, c'est pas grave. Il y en a qui ont redoublé la mathématique, c'est correct. Mais en réalité, ce qu'on voit...
Ils n'ont pas arrondi souvent. Là.
Non, pas souvent. Ouais. Exactement. Donc, au niveau du budget d'opération, ça va pas bien, mais au niveau du budget des dépenses en capital aussi, quand la coalition Avenir Québec est arrivée au pouvoir, on avait environ 100 milliards de dollars sur 10 ans d'investissement en capital. On est rendu à 167 de mémoire sur 10 ans. C'est une augmentation très importante.
Oui.
Ça, le ministre Charrette, là, qui est responsable des infrastructures au Québec, hier, il expliquait dans l'huis clos, ben là... On a fait beaucoup pour le Québec. On a augmenté. Mais le problème, c'est quand on regarde l'état des infrastructures, l'année dernière, dans le dépôt...
C'est 53. En général, je pense que c'est 53% des infrastructures qui sont mauvaises ou très mauvaises.
Exact. Avant, c'était 58. Fait que c'est une détérioration relativement rapide. Ouais. Là, le ministre nous explique, oui, mais avant, on ne comprenait pas vraiment c'était quoi le déficit de maintien d'actifs. Concrètement, le déficit de maintien d'actifs, c'est l'argent nécessaire pour rendre l'infrastructure, que ce soit le réseau routier, les hôpitaux, les écoles,
en état
satisfaisant. Ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des secteurs où on ne le sait pas. Éducation supérieure, vous allez voir, l'année prochaine, ça va beaucoup augmenter parce qu'on ne le sait pas trop. Fait que concrètement, là, on résume.
Ça me fait bien plus peur que le reste. Tu sais, je me souviens d'une certaine époque où on avait demandé au ministre des Finances, il y avait combien d'employés au gouvernement, puis je me souviens pas c'était quel ministre, il avait aucune idée.
Aucune.
Il savait pas. Il disait, ouais, mais il y a combien d'employés dans ta shop? Je sais pas.
Si.
Il y avait pas de réponse. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit, ouais, mais là, les infrastructures, là, on est où, là? Le bilan, on est rendu où? Là? Combien de pourcentage des infrastructures demandent? Hey, je suis pas sûr. Tu sais, tu peux pas rouler de même.
C'est
à un moment donné, les adultes, les agences vont... Ben, ça a été fait, c'est en Daniel Poor, mais les deux autres vont suivre. Là. Si tu changes rien, parce que les deux autres avaient dit non, c'est correct, on vous laisse la cote, mais vous êtes sous surveillance. Mais là, on est... Visiblement, on n'a pas fait le travail qu'il y avait à faire.
On n'a pas fait le travail, puis on est dans une situation où on dépense plus sur nos infrastructures, mais elles se dégradent davantage.
Oui, parce qu'ils continuent de vieillir. Là.
Exact. Et on fait quoi? C'est très difficile. Le gouvernement, il va juste spinner en expliquant qu'on dépense plus. Il va falloir qu'on comprenne que le réseau routier pèse 55% de ce déficit de maintien d'actifs-là. Puis si on veut s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour faire en sorte que ça coule plus dans les chambres d'hôpital, que nos élèves n'ont pas besoin d'aller dans des roulottes parce que l'école n'est pas fonctionnelle, il va falloir aller vers les concessions autoroutières pour certains tronçons qui sont importants. On peut penser l'autre côté à Lévis, où il y a beaucoup de demandes dans le coin de Montréal, la 20, la 40.
Ah, les routes sont...
Il va falloir y
aller. Puis là, on roule dessus, je le sais que c'est le printemps puis que c'est pire, mais là, c'est pire que pire. Je vois les roues, là, les jantes, tout ça craque. Il y a des bosses, c'est l'enfer. T'as mal au cou. Tu arrives chez vous, tu dis, j'ai mal à la nuque, en arrière. Ben oui, mais t'as-tu vu... Avez-vous vu nos routes? Il y a de la job. J'ai un chiffre quand même. Tu parlais des infrastructures d'éducation au niveau supérieur. Au niveau collégial, au cégep, c'est 67% des infrastructures qui sont mauvais ou très mauvais état. Tu sais, là, tu es dans la grosse majorité. Là. C'est quasiment le trois quarts.
L'eau
coule, là.
On a tous construit les cégeps pas mal en même temps ou plusieurs, donc je
comprends. C'est des anciens couvents, des fois même, qui étaient là depuis les années 30. Là.
Donc ça, on le comprend, puis c'est vrai quand même que sur plusieurs décennies, il y a eu un déficit d'investissement. On n'a peut-être pas assez investi au niveau du maintien
d'actifs. Oui, mais à un moment donné, quelqu'un doit prendre le bâton.
Voilà. Puis à un moment donné, il faut être responsable. On n'a pas fait ce qu'on avait à faire. Puis la question aussi de prioriser le maintien d'actifs au lieu de la bonification. Autrement dit, arrange ce qu'on a déjà construit au lieu de construire du nouveau stock, des nouvelles écoles. Peut-être que c'est important, mais celles qui coulent, on peut-tu s'en occuper en premier? Parce qu'on le sait très bien, pour un politicien, il y a ça aussi, il faut revenir dans la tête du politicien.
Il faut se faire élire.
Toi, t'es sur 4 ans, là. Qu'est-ce qui est le plus sexy devant la caméra? De réparer la vieille école ou de faire la nouvelle,
école? Ben, oui.
C'est génial. Le gros projet structurant. Tu veux ton nom sur un nouveau projet. Malheureusement, c'est la réalité. Puis aujourd'hui, on est dans une mauvaise situation. Il y a un autre élément qui, je pense, est intéressant dans le budget. C'est rare qu'il y ait des choses intéressantes. Là, réduction de la part de Mme Duranceau. On voit quand même le changement de ton entre Mme Duranceau et Mme Lebel. Hein,
oui.
Avant 2023-2024 à 2024-2025, c'est une augmentation du secteur public d'environ 35 000 équivalent temps plein.
Wow.
Hier, c'est une augmentation d'un peu moins de 3 000 parce qu'il y a eu aussi des diminutions au niveau des fonctionnaires. C'est rafraîchissant. C'est trop tard,
mais
par contre.
C'est trop peu trop tard.
C'est beaucoup
parce
trop tard.
Parce que total tout, là, sur les 8 ans, c'est au-dessus de 100 000. Là.
C'est 108 000 sur 8 ans. Puis,
108 000 nouveaux employés.
Absolument. Puis mon problème, là, c'est que j'ai fait une analyse il y a deux semaines du secteur public depuis l'arrivée de la coalition Avenir Québec. Puis ce que je voyais, c'est que de janvier 2019 à janvier 2026, on a créé 431 000 emplois au Québec.
Oh.
237 000 du secteur public, provincial, fédéral, municipal.
C'est 55%
des emplois créés.
Non, excuse-moi, donc... on va faire un vœu. Non, mais c'est parce que je l'ai vu puis je n'ai parlé de votre chiffre. Là.
Mais c'est incroyable de voir ça.
Mais
de...
ça, dans un univers là, où on veut assurer une viabilité à long terme, ça, c'est pas viable. Tu peux pas avoir la majorité de création de tes emplois qui sont payés par le public. C'est parce que là, le chien mange sa queue.
À
un moment donné, tu tombes dans un spectre où... Tout le monde dépend de tout le monde, mais t'as plus de richesse, t'as plus de création de richesse.
C'est vraiment le gros problème, je pense, sous 65,8 milliards de dollars de rémunération.
Qui va payer les employés de l'État?
Ben, c'est le secteur.
Si tout le monde travaille pour l'État.
C'est ça le problème, c'est qu'on me dit, oui, mais Gabriel, là, quand même, là, la personne qui travaille comme enseignant, la personne qui travaille comme...
Paye de l'impôt. Oui, mais c'est de l'impôt, c'est un retour.
L'affaire, c'est qu'il va payer 15-20 000 piastres d'impôt, mais il va nous en coûter 75-80 000.
Ben oui.
Fait qu'au net, là, il nous coûte de l'argent, il faut le comprendre. Donc, on prend des ressources du secteur privé, on l'envoie dans le secteur public, puis à un moment, on se dit, comment ça, c'est pas dynamique, le secteur privé? C'est bizarre.
Il est en train de se faire étouffer.
Ben, qu'est-ce qui se passe au Canada pendant ce temps-là? À part la Colombie-Britannique, qui est absolument géniale pour se tirer dans le pied. Vraiment, ils font un bon travail, on l'a vu aujourd'hui avec la décote, ils sont excellents. À part ça, là, quand on retire le Québec puis on regarde le Canada en général, 36% de création d'emplois liés au secteur public. C'est pas mal plus balancé que le 55 au Québec. Là.
Mais je trouve ça quand même beaucoup. Même à 36, je trouve ça beaucoup.
En Alberta, on est en bas de 20. Là,
tu jases.
Le secteur privé est dynamique.
Le public est là pour classer papier puis faire en sorte que ça marche.
Je pense qu'il faut toujours se rappeler ça. On parle du Québec, on peut parler du fédéral. En général, l'État a vocation à donner des services et pas à créer des emplois. Je fais un petit pas de côté parce qu'il y a deux semaines, on voyait un des syndicats fédéraux qui disait « Ah non, on ne rentrera pas. L'intelligence artificielle, là, ici, là, on va mettre ça dans les conventions collectives. On va restreindre cette utilisation-là. » Attends un peu. Là. Le contribuable, est-ce qu'il peut être respecté? Lui, paie de l'impôt.
Ah oui.
Tu es en train de dire, on va conserver des effectifs qu'on n'aurait pas de besoin.
Qu'on pourrait se passer, dont on pourrait se passer.
C'est incroyable. Mm. Donc, c'est malheureusement, encore une fois, je parle souvent des syndicats, mais c'est problématique et le prochain gouvernement va devoir attaquer ça, être courageux puis accepter que les syndicats, des fois, on gouverne pour les Québécois, pas pour les syndicats.
Mais quand Magali arrive à l'Assemblée, ils se font des câlins. Ils se prennent dans le bras, puis ils s'embrassent, puis ils se disent
«
Mon cher François, comment ça va? » Donc, voilà.
Et puis, là, il est en train de s'acoquiner avec le Parti québécois. Hein?
Ben c'est le prochain.
Donc, fait que, c'est ça. C'est un petit rappel.
On saute sur le prochain.
Et d'ailleurs, parce qu'il y a une course à la chefferie, sans nécessairement vous positionner pour un candidat, lequel des deux candidats, Christine Fréchette puis Bernard Drainville...
C'est chiant, ça, comme
c'est
ça.
Très chiant, OK? se rapproche le plus des valeurs, entre guillemets, de l'IEDM.
Ben, on va juste regarder le plan de novembre 2025 qui a été présenté par Mme Fréchette. C'est un plan ultra-interventionniste.
Ben d'ailleurs, elle a eu la chance de se distancer de M. Fitz, puis elle a, au prorata, elle a fait plus que lui pour l'intervention de l'État. Là,
on est vraiment dans un grand écart assez exceptionnel où on a présenté un plan en novembre 2025 où c'est de l'interventionnisme, où vraiment on faisait l'apologie de l'interventionnisme étatique, d'expliquer que l'État est le vecteur de développement économique au Québec. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est contre l'interventionnisme. Je pense que les gens vont se faire leur propre idée, mais il y a des idées que j'aime bien, comme la fin de la permanence que M. Drainville a fait flotter. Je pense que Ça va être ma réponse.
Une réponse nébuleuse.
Une réponse de politicien sans l'être.
Une réponse de gun sans tente, là. Faut bien répondre quelque chose, là. Monsieur Giguère, merci beaucoup. Puis merci, je vais dire aussi merci pour toute la job que vous faites.
Ouais,
parce qu'on cite souvent vos affaires. On jase souvent de vos recherches avec Vincent Gelozo, entre autres. Mm-hmm. Fait que merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Gardons les yeux grands ouverts, puis hold on, la gang. Tenez-vous bien, ça va brasser.
Ouais.
Merci, au plaisir. 14h08, au retour, Max vient faire son tour.
Ouellette, en direct. Radio.